Bonjour, nous sommes le lundi 24 octobre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste,
pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre...
La relève, c'est l'émission qui fait dialoguer demain, aujourd'hui et hier. Le principe est simple, deux invités qui partagent la même passion, le même métier, le même engagement. L'un débute, l'autre a déjà fait ses armes. Aujourd'hui, le Lotus n'a plus de secret pour elles, elles sont zen. Nos invités enseignent le yoga.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste,
pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Claire, bonjour. Vous donnez des cours de yoga depuis maintenant quelques mois. Et au téléphone avec nous, nous l'en remercions, Sophie Piollier, qui pratique le yoga depuis 1982 et l'enseigne depuis 1998. Parallèlement, vous intervenez à l'école française du yoga. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Claire, Kounil. Est-ce que vous vous souvenez du premier cours de yoga que vous avez suivi et de ce que vous avez ressenti alors ce jour-là?
C'était il y a longtemps.
C'était quand? Vous êtes quand même jeune, donc...
C'était il y a 9 ans. Voilà. Donc, je pratique depuis 9 ans. Et c'est un ami qui m'avait amené à son cours de yoga. Ça faisait quelques mois que je me plaignais d'être angoissée, de ne pas réussir à gérer mon stress. Et il m'avait dit, Claire, il faut que tu essayes le yoga, il faut que tu essayes le yoga. Et donc, je me suis lancée. Et au début, je ne sais pas, je n'ai pas trop... J'ai beaucoup aimé le fait qu'il faille utiliser sa souplesse parce que j'ai fait beaucoup de sport avant. Donc, j'ai bien accroché à ce niveau-là. Après, le côté lâcher prise, être zen, moi, ça ne me parlait pas trop. C'est venu plus tard.
Donc, vous n'étiez pas dans une recherche de zénitude pour justement?
J'étais plus dans une recherche un peu curative de j'ai mal au ventre parce que je suis stressée. Il paraît que le yoga, ça va faire du bien.
Et à l'époque, vous étiez encore étudiante?
Oui, ouais, ouais.
Et vous étiez c'est quelles études?
Je faisais des études de management de la culture.
Et vous y êtes arrivée?
À faire mes études?
Non, à vous déstresser.
À me déstresser, oui, oui. J'ai appris à respirer, en fait. Et une fois qu'on comprend comment il faut respirer, on regarde la vie un peu différemment. Et puis, tout notre organisme réagit aussi différemment aux situations de stress. Du quotidien.
À partir de quel moment le yoga est-il devenu indispensable dans votre vie?
Assez rapidement, en fait. Au bout de quelques mois, je suis partie à l'étranger dans le cadre de mes études, à Budapest. Et j'ai décidé de continuer le yoga. Et voilà, en fait, chaque semaine, j'avais l'envie d'aller à mon cours.
Vous aviez des manques quand vous étiez à Budapest?
J'avais quoi?
Vous aviez des manques de cours de yoga ou vous en aviez trouvé un à Budapest?
J'en ai trouvé un assez facilement, ouais, près de chez moi, de la lignée Iyengar. Voilà. Et en fait, le truc un peu addictif avec le yoga, c'est surtout quand on sort du cours, on se sent tellement bien. On est satisfait d'avoir fait quelque chose de bien pour son corps, pour son esprit. Et à partir de là, on a envie de recommencer assez souvent.
Alors justement, le yoga, c'est très à la mode, ça se répand beaucoup maintenant comme sport, justement parce que ça mélange l'aspect spirituel et l'aspect physique. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais, par exemple, à concrétiser cet aspect spirituel, à atteindre ce zen?
Je crois que... Quand on pratique le yoga avec trop d'attentes, justement, on ne va pas réussir à atteindre ces attentes. Au contraire, un des enjeux du yoga par rapport à d'autres sports, c'est qu'on n'a rien à atteindre. C'est juste l'idée de lâcher prise et puis de regarder un peu où est-ce que notre conscience va nous mener.
Sophie Piollier, vous nous entendez?
Oui, très bien.
Je vais vous faire réagir tout de suite. Est-ce que pour vous, le yoga, c'est un sport?
Absolument pas. Non, ce n'est pas un sport. Déjà parce que vous n'avez pas du tout cette notion de compétition que vous pouvez retrouver dans le sport. Et c'est en ça déjà que c'est tout à fait différent comme approche.
Claire, on revient à vous. Vous avez fait beaucoup de gymnastique quand vous étiez encore plus jeune, c'est dire. Et j'aimerais savoir, justement, peut-être par rapport justement à la notion de compétition, est-ce qu'il y a une différence entre la pratique du yoga et la pratique de la gymnastique?
Oui, c'est ce que dit Sophie Piollet, c'est que cette notion de compétition n'existe pas du tout dans le yoga, et que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Le but du jeu, c'est pas de forcer ses limites, d'aller au-delà de ses limites. Dans le yoga, c'est plutôt apprendre à comprendre comment fonctionne son corps, à explorer son corps. Et c'est ça qu'il y a d'agréable, c'est arrêter de se mettre la pression et aussi d'apprendre à prendre son temps, ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui. Donc, par rapport à la gymnastique, c'est un peu le jour et la nuit.
Mais à l'inverse, la gymnastique, ça vous avait quand même donné des bases de souplesse qui vous servent dans le yoga ou pas?
Après,
ou pas du tout?
Le côté physique du yoga, moi, parce que j'avais pratiqué la gymnastique pendant 10 ans avant, effectivement, j'ai retrouvé assez rapidement ma souplesse parce qu'il y a c'est pas que la souplesse le yoga, hein. mais bon, on travaille beaucoup sa souplesse, donc moi, au départ, en tout cas, j'aimais bien cet aspect-là. Et le truc, c'est qu'après, on va vers autre chose.
Quand je vous entends, en fait, toutes les deux, moi, il se trouve que j'ai un compte Instagram et le yoga et Instagram, ça semble être une énorme histoire d'amour. Et quand vous me dites qu'il n'y a pas de compétition dans le yoga, je ne sais pas si vous suivez les comptes Instagram de certaines, stars qui prônent le yoga, etc. Ça me semble quand même un petit peu de la compétition à qui va le mieux faire le poirier. Qui va avoir la position la plus improbable, qui va montrer qu'à 45 ans, la gravité ne la touche pas. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un peu maintenant de ça dans le yoga?
La gravité ne la touche pas, mais elle peut être grave.
Et les hommes aussi s'y mettent, d'ailleurs.
Oui.
Je trouve ça intéressant comme question parce que moi, au moment où j'ai lancé mon compte Instagram, je trouvais ça vraiment hyper... je me sentais dans un autre monde. Et en fait, effectivement, je crois que cette mode sur Instagram, c'est pas trop ça, le yoga. C'est plutôt des acrobates ou des anciennes, pom-pom girls qui ont trouvé dans le prétendu yoga un moyen d'être populaire, de porter des beaux vêtements, mais c'est pas du tout ça le yoga.
Votre avis, Sophie?
Je suis tout à fait d'accord, absolument. Et
vous avez un compte
moi,
Instagram?
Personnellement, toute la différence, c'est qu'en plus, je suis donc dans le yoga depuis un peu plus de temps donc que votre cher invité. Et je ne suis, oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis absolument pas au fait de toutes ces pratiques Internet, déjà, du fait de mon âge peut-être, ou du fait que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Et je suis souvent désolée de voir à quel point nous nous éloignons ainsi de la pratique elle-même du yoga, de par cette frénésie mercantile peut-être de certains qui voient peut-être là un moyen d'atteindre d'autres personnes par un biais qui reste toutefois totalement, comment dirais-je, de la publicité, hein. C'est tout à fait publicitaire, c'est comme pour vendre un produit. Et donc on essaye d'atteindre des personnes, peut-être en faisant quelque chose de totalement inhabituel, fantastique, des positions sur la tête, complètement acrobatiques, qui serait peut-être un peu plus de l'ordre du fakirisme même parfois, et qui nous éloigne totalement du propos du yoga.
Thank you. Qui mieux que ce musicien anglo-indien et joueur de tabla, Talvin Singh, mêlant musique indienne et boucle jungle, pouvait illustrer l'émission sur le yoga entre tradition et modernité, comme disent les agences de publicité peu inspirées.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Sophie Piollet, vous souvenez-vous de ce qui vous a donné envie de donner des cours ?
Alors, de donner des cours, c'est parce que moi-même, j'étais déjà pratiquante de yoga depuis 12 ans. Et puis, il m'est apparu tout à fait naturel que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Voilà, j'avais besoin de le faire passer à mon tour. Ce qui m'avait été donné, cette découverte, je ne pouvais pas la garder que pour moi. Donc, j'ai décidé d'apprendre d'abord, parce que j'ai d'abord appris à enseigner. Et ensuite, de me permettre de commencer à enseigner.
Et voilà. Vous, Claire ?
Comment c'est venu ?
Ouais.
Moi, en fait, j'ai proposé à un ami qui était en train de monter son entreprise, donc qui était géré à cette même situation de stress qu'on connaît tous, de faire du yoga. Et puis, il m'a dit, Claire, plutôt que de me donner un cours de yoga à moi, donne-moi un cours à moi et à tous mes employés. Et en fait, ça s'est fait comme ça, de façon un peu informelle au départ. Après, ça faisait 8 ans que je suivais les enseignements de Liliana Champenois, notre prof, Christophe et moi. Et donc elle
on
m'avait
révèle mes secrets.
Donc elle m'avait voilà, par rapport à ce que dit Sophie, elle m'avait transmis pas mal de choses, le fait de pratiquer avec le même enseignant pendant si longtemps. Voilà, cette transmission, en fait, je l'avais un peu acquise.
Toutes les deux, en fait, vous avez, vous nous en parliez pendant la musique, et puis ça transpire des, faut bien transpirer un peu, des propos de Sophie. Il y a la notion de bienveillance, en fait. Est-ce qu'elle est centrale, en fait, chez vous dans l'enseignement du yoga et même dans votre vie ?
Oui, je
elle
crois
est essentielle.
Sophie, on va vous prendre, vous êtes au téléphone, c'est moins facile pour vous, allez-y.
Oui, elle est tout à fait essentielle. C'est une posture. C'est même une posture, hein, d'être cette bienveillance. C'est une posture en face de nos élèves. C'est une posture de l'enseignant, effectivement, la bienveillance.
Ça, faire du yoga, ça vous a changé ?
Est-ce que ça m'a changé ? Je ne pense pas que ça m'ait changé. Il me semble qu'au contraire, ça m'a permis d'aller vers ce que je suis.
Et vous, Claire ?
Voilà, c'est exactement ça. J'allais au départ répondre oui, ça m'a changé, mais non, en fait, c'est plutôt je me suis un peu redécouverte et j'ai voilà, cet aspect bienveillant, par exemple, c'est quelque chose qui se traduit maintenant dans mon quotidien.
Sophie, vous intervenez. Alors, le terme est, je sais que le choix du terme est important. Alors, si je me trompe, vous me reprendrez. À l'école française du yoga, vous êtes enseignante, professeure, formatrice. Je sais pas très bien quel est le terme exact. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire ce qu'on apprend à l'école française du yoga ?
Alors, à l'école française de yoga, donc qui se nomme EFI, vous pouvez effectivement venir pour vous-même donc améliorer ou approfondir votre pratique. Vous avez un questionnement aussi par rapport à cette pratique et aussi par rapport au texte, hein, parce qu'on ne fait pas que pratiquer, il y a tout un enseignement. C'est vraiment une école à ce titre. On étudie également. Et vous pouvez, bien évidemment, et c'est ce qui se passe le plus souvent, par la suite, devenir enseignant. Alors, il y en a qui ont déjà envie de devenir enseignant dès qu'ils arrivent. C'est leur démarche première. Il y en a d'autres qui ne pensaient absolument pas avoir envie d'enseigner et qui finalement se découvrent avoir envie d'enseigner. Et puis d'autres qui sont là pour continuer leur chemin.
Finalement, en fait, ça ressemble un peu, comment devenir professeur, etc. Ça ressemble un peu à la psychanalyse où en fait, il faut avoir d'abord été psychanalysé pour devenir psychanalyste, non ?
Cyrine, oui. En moins névrosé, peut-être.
Il n'y a pas besoin d'être névrosé avant, c'est ça que vous voulez dire ? Sophie, vous avez
non,
un avis ?
Non, c'est une blague.
Non, je la laissais répondre. Allez, je crois qu'elle était prête à répondre déjà. Allez-y, je ne veux pas vous prendre la parole. Allez-y.
Cette histoire, la formation est importante, oui. Et même au pendant l'enseignement, en fait, on continue toujours de se former tout au long de notre vie. Du coup, Sophie, vous le savez plus que moi, vu que je commence seulement depuis pas très longtemps à enseigner, mais on apprend toujours, on apprend avec nos élèves, mais on continue à lire des textes, faire des formations, explorer sa pratique, en fait.
Vous dites lire des textes, lesquels, par exemple ?
Là, moi, pour le moment, je m'intéresse à une nouvelle forme de yoga. Voilà, donc le yoga tantrique du Cachemire. Je ne sais pas si ça vous parle.
Alors, le Cachemire, oui, beaucoup, mais ça, c'est une question de mode.
Non, mais ça, c'est surtout pour les pulls verts.
Ouais, c'est exactement ça.
Voilà, c'est juste que petit à petit, dans sa pratique, moi, j'avais un enseignant qui disait toujours que pour bien enseigner... Du coup, Sophie, vous me direz si vous êtes d'accord, mais pour bien enseigner, il faut d'abord savoir bien pratiquer. Et c'est ça, en fait, le fait de pratiquer, c'est aussi... enfin, quand on s'intéresse à la musique, au cinéma, à l'art, c'est bien d'aller voir des expos, des concerts, et puis c'est aussi parfois d'aller un petit peu plus dans la théorie.
Sophie,
personnellement, pour moi, le yoga, c'est aussi ça, oui.
Pardon, Sophie, c'est à vous.
Oui, ce que j'entends, c'est aussi ce besoin de nourriture, oui, et ce besoin de continuer à être toujours en chemin. Et ça, alors oui, la pratique, absolument, hein, donc les asanas, la pratique posturale, mais qui se relie au souffle. Ça fait partie entièrement du yoga. Ce ne sont pas que des postures, le yoga. C'est toute une de l'ordre de la relation. De la relation au souffle, mais de la relation à l'autre, de la relation à soi. Et c'est toute cette recherche d'altérité également, n'est-ce pas ? Bon, je vous apprends rien, mais
si.
Cette recherche aussi dans l'étude, donc l'étude des textes, bien entendu, donc il y en a moult et variés, mais vous avez également, donc un texte phare quand même du yoga que d'aucuns pourront peut-être trouver assez facilement, je pense, ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Je vous invite vivement à découvrir ou à redécouvrir inlassablement.
L'une et l'autre, vous avez un point commun, c'est que vous continuez à suivre un cours avec le même professeur. Vous, je crois que vous avez le même professeur depuis vos débuts, Sophie.
Alors,
qu'est-ce qui fait qu'on continue toujours avec le même ? Deux professeurs.
Alors, j'ai mon professeur avec lequel j'ai commencé depuis que j'ai 16 ans, donc qui s'appelle Jacqueline Pinas. Qui m'a donc accompagnée depuis tout ce temps-là. Et puis il y a donc Isabelle Morin-Larbé, qui est mon professeur, enseignant et donc aussi formatrice, à former moi-même des futurs enseignants de yoga, donc à l'EFI, qui est aussi donc la présidente de l'école, de la Fédération nationale des enseignants de yoga, qu'on appelle FNEI.
Et qu'est-ce qu'on cherche à toujours rester avec le même professeur ? Est-ce qu'on approfondit sa pratique ? Est-ce que c'est un manque de curiosité pour aller voir ailleurs ?
Non, c'est pas du tout personnellement, je vais répondre à mon nom. Je cherche rien. Ça se fait tout seul en fait. Alors je dis pas que j'ai pas, bien entendu, dans mon cheminement, j'ai eu d'autres enseignants aussi. Je suis allée pratiquer avec d'autres personnes, faire d'autres stages. J'ai aussi donc pratiqué avec Martin Nil, mais il y a toujours quelque chose de l'ordre du lien, de la relation. Il y a une logique dans tout ça. Hein. Tout ça, c'est aussi dans ma recherche personnelle, par exemple relié à Krishnamacharya et donc au Yoga Sutra aussi de Patanjali. Donc il y a tout un cheminement par rapport à ma propre pratique qui est tout à fait logique.
Et vous, Claire, que vous avez depuis 9 ans, vous suivez les mêmes cours ?
Oui, depuis l'année dernière, je suis le cours d'une autre enseignante à Paris, Belda Sisso, qui a une pratique assez complémentaire. En tout cas, de ce que je peux retenir, de ce que je peux partager avec Sophie, c'est cette histoire de lien avec l'enseignant.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Mieux qu'un pranayama, on me dit que certains auditeurs attendent avec impatience Ablina Majorel et sa chronique. C'est son heure.
Chers auditeurs, le vénérable Churchill, interrogé sur son secret de longévité, affirmait avec gloriole « no sports ». Il ajoutait aussi « une pomme par jour éloigne le médecin, seulement si l'on vise bien ». Il faut dire qu'en son temps, le sport n'était qu'une activité de gentleman oisif, le reste de la population en faisant bien assez lors de son travail. Alors qu'à la même époque, les heures les plus sombres de notre histoire, comme l'on dit, émergeaient outre-Rhin, le mythe du corps athlétique, performant, bon à tout et donc à rien.
À rien que vous écrivez avec un Y, donc.
Oui, tout à fait. Le reste du XXe siècle donna finalement raison à Berlin en faisant du corps l'obsession contemporaine. Avant, le corps n'était que mortelle enveloppe de l'âme ou de l'esprit, selon. Maintenant, il est devenu notre identité. Fini la transcendance religieuse ou politique, bienvenue dans l'individualisme et donc le corps comme tout ce qu'il nous reste comme capital. Le corps, c'est le plus bel objet de consommation, comme disait Baudrillard. Comme le dit Isabelle Queval, auteure du Corps aujourd'hui, la construction du corps capital, les valeurs héritées de l'éthique protestante que Weber discernait dans le capitalisme, l'économie de soi, la rentabilité du temps, une forme d'ascétisme, une obsession pour le faire, etc. Tout cela nous permet en fait de représenter son corps comme soi-même, indéfiniment en chantier, indéfiniment perfectible dans les champs et les temporalités distinctes. Que ce soit l'entraînement sportif, le régime alimentaire, la cosmétique, la chirurgie esthétique, etc. Le corps n'est plus subi, il est rationnel, voulu, créé, libéré des aléas de la nature et du hasard.
Donc tout va bien, le corps est sain et l'esprit dans tout ça, comme aurait dit Jacques Chancel.
Alors évidemment, tout cela, ça crée de la pression, de la norme, etc. Mais finalement, nous vivons bien plus longtemps et surtout, nous avons aujourd'hui Photoshop. Cette merveille qui permet à n'importe qui d'avoir une image de lui parfaite en trois coups de stylet graphique. Nous avons aussi Instagram et ses filtres qui permettent enfin de faire des photos de vous sans avoir les yeux rouges et le teint verdâtre.
Ça a changé ma vie, vous savez. Hein.
Et oui, parce que le filtre, c'est la vie en mieux. Et quand on a vécu une fois l'épreuve du Polaroid des années 90 en maillot de bain, on sait que c'était vraiment pas mieux avant.
Merci Abeline. Claire, Sophie, aujourd'hui le yoga est très à la mode. On a parlé tout à l'heure d'Instagram. Qu'est-ce que vous Sophie, qu'est-ce que ça voulait dire en 82 faire du yoga? C'est vu comment?
Moi, en 82, faire du yoga, je ne savais même pas que ça existait, le yoga. Donc, je ne connaissais pas même le mot, je crois, si je dois vous avouer tout ça. J'avais 16 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'étais plutôt quelqu'un de très sportif, de très actif, d'ailleurs. Mm-hmm. Et c'est pour ça que lorsqu'on m'a parlé de ce qui s'appelait le yoga, je me suis dit, tiens, par curiosité, donc vous voyez, je suis curieuse de nature, je vais aller voir. Et effectivement, eh bien, dans le questionnement de mon professeur en face de moi, m'est apparu qu'effectivement, pourquoi j'étais là, finalement, c'était peut-être à ce moment-là pour me recentrer, parce que j'étais plutôt assez énergique. Voilà. Donc ma démarche était là, au départ.
Alors moi, j'ai une petite question. Vous allez me dire que je suis évidemment une newbie, etc. Mais il se trouve que pour moi, l'arrivée du yoga, ça va avec la sitar et mai 68 et la libération sexuelle. Et je suis allée à un cours de yoga il y a quelques temps pour faire une expérience.
Alors, il y avait la sitar ou une libération sexuelle?
Il n'y avait pas la sitar, mais il se trouve que manifestement, l'intérêt de beaucoup de nanas qui étaient là était pour le côté « Mon Dieu, est-ce que cela peut m'aider dans ma vie sexuelle ?»
Ah.
Voilà. Donc, moi, je me demande, en fait, vous traitez les problèmes, en fait, de...
Non, moi, je dois avouer que j'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. En revanche, j'ai beaucoup d'élèves qui sont tombés enceintes en suivant mes cours. Donc, du coup, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose en rapport avec la fertilité.
Sophie?
Écoutez, je pense que chaque personne dans sa démarche a une démarche tout à fait personnelle. Donc, si effectivement ça fait partie de sa démarche, j'espère et je lui souhaite d'y trouver ce qu'elle cherche. Mais de toute façon, sur un tapis de yoga et dans un cours, vous allez avoir autant de recherches et d'attentes hein, au départ que possible. Je veux dire, il y en a effectivement, ce sera peut-être pour ça, pour une recherche par rapport à leur sexualité ou un questionnement, ou d'autres, ce sera peut-être par rapport à l'enfantement, qui auront peut-être par exemple des soucis aussi pour enfanter, pour tomber enceinte, ça arrive aussi. Mais dans ce cas, c'est plus des cours particuliers qui va se passer. Souvent, ils vont s'adresser à un professeur, mais ils vont avoir un cours plutôt qui va être centrés sur leurs questionnements. Mais toutes ces questions qui sont tout à fait personnelles à chacun de ces élèves sur le tapis, le reste le plus souvent assez secrète, c'est au fond c'est en eux, et peut-être en parlent-ils à leur professeur, et dans ce cas-là, c'est de l'ordre de la relation entre le professeur et eux.
Le yoga, ça reste très féminin, parce que là, vous êtes deux professeurs, dans les cours de yoga, il y a quand même plus de filles que de garçons. Est-ce que c'est général ou...
Dans la mesure où le yoga, comme vous l'avez souligné, ça devient à la mode, je crois que ça s'ouvre vraiment aux garçons. Et moi, personnellement, j'ai quasiment 90% de mes élèves, ce sont des garçons, parce que j'enseigne dans un milieu qui fait que c'est plutôt des élèves garçons que j'ai.
Vous enseignez dans le Marais ?
Non, j'enseigne pas dans le Marais, j'enseigne dans le milieu du développement web. En fait, je donne beaucoup de cours en entreprise, et du coup, les devs, c'est plutôt... Il y a des filles, et j'en suis ravie, mais c'est quand même plus des garçons.
Et vous, Sophie ?
Alors, c'est totalement... Ça se mélange. Je dirais que avec les années, il y a de plus en plus de garçons, j'ai remarqué. J'ai eu beaucoup plus de femmes jusqu'à présent, et maintenant, ça commence à s'équilibrer. Tout à fait, c'est vrai.
Toute dernière question, et pour laquelle, qui pourrait faire une émission toute seule, et pour laquelle je vous demande de répondre très vite. Il y a eu récemment une polémique avec des traditionnalistes hindous qui se plaignaient du fait que les occidentaux leur volaient leur yoga, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez l'une et l'autre ? Vous avez l'impression de voler le patrimoine indien ?
Non, moi, je ne pense pas. Je pense que, de toute manière, le yoga enseigné en Occident est quand même différent du yoga en Inde. Parce que culturellement, nous sommes différents. Après, je suis partie l'année dernière en Inde et j'ai pu observer que c'est un business, le yoga en Inde.
Sophie Pioli, vraiment, allez, une minute.
Alors écoutez, en une minute, je pense absolument pas que nous prenions le yoga à l'Inde, parce que de toute façon, le yoga était bien là avant nous. Hein. C'est absolument occidental, notre façon d'enseigner. Oui. Nous n'avons absolument pas la prétention d'enseigner, par exemple, à un corps qui n'est pas habitué au même positionnement en Occident qu'en Inde, par exemple. Donc ça ne s'adresse pas de la même façon, on n'est pas la même, nous ne sommes pas les mêmes. Ça reste tout à fait occidental. Et c'est important de le rappeler. Donc nous enseignons là où nous sommes. Le yoga est un acte de présent. Donc il y a une logique encore ici. C'est pas, nous ne pratiquons pas de la même façon en Occident que nous pratiquerions si nous étions hindous.
Vous venez d'écouter La Relève, une émission présentée et proposée par
la divine Abeline Majorelle
et le merveilleux Christophe Bis, et à la réalisation aujourd'hui, le charmant Jérôme. Retrouvez-nous sur la page Facebook La Relève Radio Campus ou sur le site internet de Radio Campus sur la page émission La Relève. Bonne semaine à tous et à dans 167 heures. J'y arriverai jamais.